Amis, frères et sœurs, une vie nouvelle et un cœur apaisé vous sont offerts de la part de Dieu, notre Père, et de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. À celles et ceux que je n'ai pas encore rencontrés depuis le début de cette année, eh bien, je vous présente mes vœux les meilleurs pour une année 2020 heureuse. Bienvenue pour ce culte qui rassemble aujourd'hui les enfants de l'éducation biblique, l'ensemble des catéchètes, des familles, tous les membres de l'Église du Christ ici à l'Oratoire du Louvre. Bienvenue aux personnes nouvelles de notre paroisse. Que chacun de vous se sente ici chez lui pour ce moment où nous voulons nous mettre en présence de Dieu, écouter sa parole et la méditer. Bienvenue et merci à Fabien Aubé et au chœur de l'oratoire, ainsi qu'à David Cassan qui nous accompagne musicalement pendant ce culte. Et vous l'avez remarqué peut-être, nous suivrons la liturgie pour ce dimanche, consacré à l'éducation biblique que vous trouverez au début du psautier français. Et je vous invite à vous lever pour chanter « Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique ». Et c'est Béatrice qui nous conduit dans la louange.
Avec le psalmiste, nous louons le Seigneur. Éternel, ta présence est comme une pluie qui tombe sur un terrain moissonné, comme des ondées qui arrosent la campagne. Tu es promesse de vie au cœur même de l'aridité de notre vie quotidienne. Éternel, ta parole nous affranchit de l'oppression et de la violence, car dans l'assurance de ton amour, pour le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide, nous trouvons les mots pour te confier notre peur et notre espoir. Dans la promesse du règne qui vient, nous puisons la force de choisir pour notre vie les chemins de la justice. Dans la certitude de ta fidélité, nous recevons l'audace de rencontrer et de témoigner. Merci, Éternel, pour nos cœurs et nos yeux qui s'ouvrent sur la simplicité de tes dons et pour la joie qui nous illumine. C'est par elle que ton règne s'avance parmi nous, que tous les rois se prosterneront devant toi et que toutes les nations te serviront.
Dans le psautier français, je vous invite à prendre maintenant le psaume 127. Psaume 127, dont nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Prenez place. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, nous lisons ceci. Voici, dit le Seigneur, des jours vont venir où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les tirer du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue alors que je les avais étroitement unis à moi, dit le Seigneur. Mais voici quelle alliance je conclurai avec la maison d'Israël au terme de cette époque. Je ferai pénétrer ma loi en eux. C'est dans leur cœur que je l'inscrirai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et ils n'auront plus besoin ni les uns ni les autres de s'instruire mutuellement en disant « Reconnaissez l'Éternel », car tous, ils me connaîtront, du plus petit au plus grand, quand j'aurai pardonné leurs fautes et effacé jusqu'au souvenir de leurs péchés. Prions ensemble. Qu'est-ce qui est important à nos yeux? Quelles sont les personnes que nous regardons avec attention, que nous sommes fiers d'avoir dans nos relations? Celles qui ont la connaissance, le savoir, l'intelligence, celles qui ont de l'influence sur la marche de notre monde, celles aussi qui ont la force, l'autorité, le pouvoir, et dont les désirs sont des instructions, celles qui ont la richesse, la fortune, la réputation, qui sont respectées et admirées. Mais par la bouche du prophète, tu dis que tout cela ne vaut pas grand-chose et que le plus important, c'est de te connaître. Alors, voici notre prière. En cette année qui commence, accorde-nous la grâce de te connaître et de te recevoir. Nous te prions pour nos vies, nos journées, nos occupations, nos travaux et nos relations. Nous te prions pour nos pensées, nos sentiments, nos rancunes, nos désirs, nos amertumes. Nous te remettons notre foi, notre prière, notre témoignage, notre vie intérieure. Et parmi tout ce que nous te remettons, permets qu'aucune de ces situations ne soit l'occasion d'une rupture avec toi. Amen. Je vous invite à vous lever pour accueillir le pardon que Dieu nous donne. Le pardon que Dieu nous donne se situe dans la fidélité que Dieu continue de nous manifester. Et nous l'entendrons à travers les paroles du prophète Ésaïe, quand les montagnes chancelleraient, quand les collines s'ébranleraient. Mon alliance de paix ne sera pas détruite. Je te conserve pour toujours mon amour. Tu as du prix à mes yeux. Alors va en paix. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Nous restons debout pour confesser notre foi. Nous croyons en Dieu notre Père, nous croyons qu'il a créé le monde et l'être humain. Nous croyons qu'il a tout créé dans la même joie et le même émerveillement. Nous croyons en Jésus le Christ, Fils de Dieu. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du don. Nous croyons en l'Esprit Saint par qui le monde reçoit la vie et l'amour et qui rend possible toute justice et toute espérance. Nous croyons que nous ne sommes pas des individus isolés, mais un peuple, le peuple de Dieu, Son Église, signe d'unité et d'amour, signe de la présence et de la tendresse de Dieu. Nous croyons que le monde est déjà sauvé, que le mal est déjà vaincu et l'homme déjà renouvelé, mais nous savons que cette résurrection doit se faire chaque jour jusqu'à ce que Christ revienne et nous rende semblables à lui. C'est pourquoi nous attendons un monde nouveau. Seigneur, que ton royaume arrive. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à reprendre place. Aujourd'hui, dans le Premier Testament, nous lirons le début du chapitre du livre de Jérémie, le livre du prophète Jérémie. Parole de Jérémie, fils de Hilkia, l'un des prêtres qui se trouvait à Anatote, dans le pays de Benjamin. Parole de l'Éternel qui lui fut adressée durant la 13e année du règne de Josias, fils d'Amon, sur Juda, ainsi que durant le règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda, et jusqu'à la fin de la 11e année du règne de Sédécias, fils de Josias, sur Juda, jusqu'au 5e mois, moment où les habitants de Jérusalem furent emmenés en exil. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. » L'Éternel m'a dit, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer. » Déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie ? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. La parole de l'Éternel m'a été adressée une deuxième fois. Que vois-tu ? J'ai répondu, je vois une marmite bouillante. Son ouverture est orientée vers le nord. Et l'Éternel m'a dit, C'est du nord que le mal se déversera sur tous les habitants du pays. En effet, je vais appeler tous les peuples du royaume du nord, déclare l'Éternel. Ils viendront, ils placeront leur trône à l'entrée des portes de Jérusalem, tout autour de ses murailles, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont fait brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant ce que leurs mains avaient fabriqué. Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille, tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Je vais vous inviter à prendre maintenant le cantique Louange et prière. Et dans ce cantique, nous prendrons le numéro 179, 179. Et de ce cantique, nous chanterons les trois strophes. Je vous invite à vous lever. Prenez place et je vais inviter maintenant les enfants de l'école biblique à partir tranquillement pour leur éducation biblique qui leur est réservée. Et je vous invite à la prière.
Dieu notre Père, au début de cette année et tout au long de cette année, par ton esprit, enracine-nous dans la parole, celle que tu nous dis à travers les témoins de la Bible. Enracine cette parole en chacun de nous, qui est ton oui fidèle, qui est ton amour inconditionnel envers chacun et chacune de nous. Oui, donne-nous ainsi le courage de la liberté, le courage de nos choix, le courage de nous tenir droit, le courage d'être nous-mêmes comme tu veux que nous le soyons. Nous te le demandons au nom de ton amour manifesté en Christ, dont rien ne peut nous séparer. Amen. Amis, frères et sœurs, en ce dimanche de l'éducation biblique, nous poursuivons notre découverte des récits de vocation. Et depuis le mois de septembre, nous sommes en chemin avec les différents appels que Dieu a faits à certains personnages de la Bible, comme Abraham, Noé, Moïse et le jeune Samuel. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur l'appel que Dieu fait à Jérémie. Jérémie est avec Ésaïe et Ézéchiel, l'un des trois grands prophètes d'Israël, non seulement à cause de la taille de son livre, qui contient 52 chapitres, mais aussi parce qu'il est la référence la plus citée dans le Nouveau Testament. Alors Jérémie est souvent appelé prophète de malheur, parce qu'il prévient le peuple d'Israël des malheurs qui l'attendent. Il vit dans un monde troublé sur le plan religieux et sur le plan politique. Le roi Josias, dernier roi du royaume de Juda, a entrepris une réforme religieuse suite à la découverte, dans les sous-sols du temple, d'un manuscrit contenant des récits et des lois pour le peuple juif. On l'appellera d'ailleurs la deuxième loi, Deutéronome en grec, et c'est le cinquième livre de la Torah. Mais cette loi n'est pas facile à mettre en place parce que le peuple d'Israël vit en tension entre son désir de revenir à Dieu d'une part et celui de vivre comme les autres peuples d'autre part. Le royaume de Juda est également tiraillé sur le plan politique, coincé entre deux pays immense et hégémonique, l'Égypte et Babylone en Assyrie. Et pour trouver sa place sur l'échiquier politique, le royaume de Juda hésite longtemps avant de faire le mauvais choix et de s'allier à l'Égypte, alors puissance déclinante. Et c'est donc dans ce contexte nébuleux que Jérémie reçoit sa vocation. Et le message qu'il doit délivrer ne fait pas très plaisir. En effet, il doit annoncer la prophétie de désolation sur le royaume de Juda, la destruction de Jérusalem et du temple. Personne n'a envie de le croire. Et quand sa prophétie se réalise et lorsque Jérusalem est effectivement détruite, ainsi que le temple, par Nabuchodonosor, et qu'une grande partie de la population est emmenée en exil, alors Jérémie lui-même est persécuté et emprisonné en Égypte. Nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ. Jérémie reçoit sa vocation, disons, vers 627. Jérusalem sera détruite en 587. Il s'écoule donc 40 années durant lesquelles Jérémie va assumer son rôle de prophète jusqu'au bout. Le témoignage qu'il écrit dans son livre, à la première personne du singulier, ce qui en fait pour partie un récit autobiographique, est particulièrement touchant et interroge en profondeur les lecteurs que nous sommes. Comment être prophète en temps de crise? Lorsque tout va mal, faut-il dire en plus une vérité qui fâche? C'est ça la mission peu enviable de Jérémie. Lorsqu'il demande au peuple de changer de vie, personne ne l'écoute. On lui interdit aussi de parler dans le temple. Lorsqu'il demande au peuple d'accepter le joug de l'ennemi, les visages se ferment et lui se retrouve enfermé dans une citerne. Comme tous ceux qui sont appelés, Jérémie ne choisit pas de devenir prophète. Mais dans le cas de Jérémie, il semble qu'il ne puisse pas échapper à son destin, puisque Dieu lui-même l'a consacré, mis à part pour son service avant sa naissance, parce qu'il le connaissait avant même sa conception. N'ayons pas peur des mots, c'est un exemple de prédestination absolue. « Je t'ai mis à part, dit Dieu à Jérémie. » Et Jérémie est un être à part bien plus qu'on ne l'imagine. Il vit à Anathoth, un village près de Jérusalem. Il est issu d'une famille de prêtres, mais cette famille porte une blessure. L'ancêtre de sa famille, Ébiatar, a trempé dans un complot contre Salomon. Depuis, ses descendants sont relégués à Anathoth sans avoir le droit de s'installer ailleurs. Et ils ne peuvent pas pratiquer en tant que prêtres dans le temple de Jérusalem. Ainsi, en tant que fils de prêtre, Jérémie est au centre de la foi d'Israël, mais en tant que descendant d'Ébiatar, il est exclu. Mais en appelant Jérémie, Dieu l'inclut dans son projet, celui de dire au peuple la vérité au risque de sa vie, de dire aussi qu'en dépit de cette vérité quelque part inaudible parce qu'elle dérange, Jérémie proclame la fidélité de Dieu envers son peuple et lui renouvelle tout de même sa confiance. Et cette confiance permettra au peuple de démarrer un projet nouveau le moment venu. Et cette confiance, Jérémie est en train de la vivre, car finalement, en allant l'appeler à Anathoth, Dieu ne rejette pas la famille des prêtres maudits. Et c'est là une mission prophétique, on ne peut plus paradoxale. Alors, la vocation de Jérémie s'inscrit dans ce contexte embrouillé, au cœur de nouvelles tensions spirituelles, diplomatiques, personnelles. Et comme toute personne appelée, il résiste. Mais la timide objection de Jérémie ne pèse pas lourd dans la décision divine. Éternel, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. Ce à quoi l'Éternel lui répond, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Dieu ajoute cette promesse qui accompagne tous ceux qui sont appelés, n'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer. Alors Jérémie ne peut échapper à sa mission. Sa vocation est exigeante et il est prévenu dès le début de la difficulté de sa mission. Et cette difficulté est annoncée d'emblée. Aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Ou encore, selon d'autres traductions, déraciner et renverser, ruiner, démolir, rebâtir et replanter. 6 verbes, dont 4 négatifs et seulement 2 positifs. La mission de Jérémie est authentifiée par la vision qui suit. 2 symboles que sont la branche d'amandier et le chaudron bouillant, bouillonnant. En hébreu, le mot amandier veut dire aussi veilleur ou athée. La particularité de l'amandier, c'est de fleurir précocement alors que l'hiver n'est pas terminé. L'amandier dit en quelque sorte le printemps avant l'heure. Porteur d'espérance, il dit d'une certaine façon que la vie est plus forte que toutes les obscurités. L'amandier est un veilleur, il hâte la venue du printemps. Mais ce veilleur n'est autre que Dieu lui-même, qui reste le veilleur attentif, fidèle et infatigable de son peuple. Même si le peuple se détourne de lui, même s'il oublie l'alliance inaugurée par Moïse, même s'il se tourne vers d'autres dieux, Dieu n'oublie pas son peuple pour autant, et continue de veiller, tout en affrontant la réalité de son existence. Et c'est ce que le deuxième symbole exprime par la vision du chaudron, bouillant, bouillonnant, évocation peu rassurante de ce qui attend le peuple d'Israël. Et ce chaudron brûlant désigne la menace qui vient du nord, c'est la menace des troupes babyloniennes qui s'apprêtent à envahir le royaume de Juda. Tout en annonçant la radicalité de la parole de Dieu, Jérémie annonce aussi la promesse de Dieu de ne pas abandonner son peuple. Et l'autorité de Jérémie va prendre racine dans la confiance qu'il fait lui-même à Dieu. Mais une confiance mise à l'épreuve physiquement, parce que Jérémie vivra sa mission en prise aux menaces permanentes. Au fond, Jérémie ne va rencontrer que des difficultés, Et c'est même emprisonné en Égypte qu'il verra la réalisation de sa prophétie par l'exil d'une partie de son peuple. Alors c'est peut-être pour cela que ce récit de Jérémie est prophétique et touchant. Non seulement par la vérité spirituelle, politique et personnelle qu'il contient, mais parce qu'il nous met aujourd'hui en face d'une vocation qui n'est pas facile à assumer. Et si nous lisions tout le livre de Jérémie, nous nous apercevrions que, finalement, ce récit alterne en permanence de confessions de foi du prophète en interrogations profondes qu'il crie à Dieu. Il ose dire son désespoir et ses doutes autant que sa joie et sa confiance. Il fait des reproches à Dieu sur la violence de sa mission, mais en même temps, il manifeste sa confiance en achetant un champ. Il désespère du peuple d'Israël au cœur dur, incapable de se convertir, mais il prophétise que jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Et en cela, nous pouvons saluer en Jérémie un modèle de croyant libre dans la relation qu'il entretient avec Dieu. Et Jérémie sert son Dieu avec l'ensemble de sa personnalité, avec le doute et la foi, le sentiment de se sentir abandonné comme celui d'être tout de même accompagné, avec ses hauts et ses bas, avec ses forces et ses faiblesses. Parce que un prophète, c'est tout, sauf un super héros. Et Dieu fait avec l'ensemble de la personnalité de celui qu'il a choisi. Parce que si le prophète doute de Dieu et de la mission qu'il lui a confiée, Dieu, lui, croit en son prophète, tout simplement parce qu'il croit en l'homme. Alors, nous l'avons entendu tout à l'heure, Dieu fait la promesse de graver sa loi dans le cœur de l'homme, en qui il ne cesse de croire. Sans le contraindre à la fidélité, qui ne serait plus un choix libre, Dieu attend patiemment la réponse de l'homme parce que, selon cette expression si chère à mon cœur, l'homme est une espérance de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons est en mutation. Celui que nous connaissons ou que nous croyons connaître va disparaître. Un autre est en train d'arriver. Dans lequel les mêmes questions de justice, de vérité, de protection des plus faibles, de solidarité avec les plus démunis, entre autres, continueront de se poser exactement comme elles se posaient au temps de Jérémie. Nos institutions politiques et ecclésiales vacillent, mais chacun pour notre part, nous recevons un appel, une vocation à ne pas désespérer, mais à inventer de nouvelles manières de construire demain. Et là, je fais juste une pause parce que je m'adresse vraiment aux enfants de caté et pré-caté. Alors, on a le choix. C'est-à-dire que soit nous lavons les mains de ce qui va advenir à ceux qui nous suivent, soit, croyant ou non, nous recevons cette mission d'abord humaine, qui petit à petit devient une responsabilité incontournable, de dénoncer ce qui abîme l'homme, la femme et l'enfant, et le menace dans sa dignité et son équilibre, mais aussi d'avoir le courage de dénoncer le pouvoir de l'argent et de la corruption qui laisse les plus faibles sur le trottoir. Nous avons aussi le devoir de dénoncer les intégrismes religieux et politiques synonymes d'obscurantisme, distillant la peur pour mieux asservir ceux qui se laissent aveugler. Alors voilà, ce n'est pas réjouissant, me direz-vous, mais ce n'est pas plus réjouissant pour nous que pour Jérémie, parce que notre mission n'est pas si différente. Alors évidemment, tout comme Jérémie et tous ceux qui ont été appelés avant lui, et aussi après lui, Nous pourrons objecter cet appel qui nous est lancé, chacun selon nos charismes et là où nous sommes placés, prétextant invariablement que nous sommes incapables d'un tel engagement. Mais je voudrais juste me souvenir avec vous d'une petite phrase que j'ai relevée au cours d'une de mes nombreuses lectures. Souvenons-nous que Dieu n'appelle pas des gens capables, mais il rend capables ceux qu'il appelle. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, je vais vous inviter à prendre le cantique numéro 214. De ce cantique, nous chanterons les trois strophes et je vous invite à vous lever.
place.
Alors je donne la parole au Cobra en premier.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marius, CPD Cobra, et c'était pour vous dire qu'on vous attend à la sortie du culte pour une vente de gâteaux. Voilà. Merci beaucoup.
Merci à toi d'avoir préparé le dessert du dimanche. Donc bienvenue à tous, bienvenue aux enfants de l'éducation biblique et aux jeunes de l'éducation biblique. Et merci infiniment à Agnès de nous avoir délivré ce message de courage, de liberté pour nous adapter au monde qui arrive et que les enfants ont dû bien intégrer, je pense, ils étaient très attentifs. Merci à David pour son accompagnement musical et au chœur de l'oratoire dirigé par Fabien Aubé. Aujourd'hui, à 17h, dans ce temple, un concert est organisé par l'ensemble vocal des Saisons et l'Orchestre de Chambre de l'Île-de-France, dirigé par Gilles André. C'est un concert qui sera un concert Händel, avec un programme entièrement dédié à Händel. Dans la semaine, vous avez toutes les réunions et les rendez-vous récurrents que vous trouvez sur le site et dans la feuille rose de l'oratoire, mais particulièrement cette semaine, mercredi, Agnès Adeline Schaeffer et Béatrice Cléomazir, nos deux pasteurs, vous invitent à la rencontre l'approfondissement de la théologie protestante. Et le thème de ce mercredi sera « Se réformer, mais toujours se réformer, mais jusqu'où ?» Et c'est à 20h, salle Monod. La semaine prochaine, le culte sera co-présidé par nos deux pasteurs. C'est un culte de Sainte-Seine. Et l'après-midi, à l'issue de ce culte, ceux qui le souhaitent peuvent se réunir dans la grande sacristie avec leur pique-nique, partager ce pique-nique. Et ensuite, c'est un dimanche de l'oratoire, et aller accompagné par Laurence Tardy, Étienne Rouvert et Claude Riffet au Louvre pour découvrir ou revoir ou approfondir une connaissance d'une œuvre d'art avec un message biblique. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent dimanche. C'est maintenant le moment de l'offrande. Merci d'avance de votre générosité.
Unissons-nous dans la prière les uns pour les autres. Père, ou quel que soit le nom que nous te donnions, toi qui nous donnes aujourd'hui notre pain, tourne nos regards et nos cœurs vers celles et ceux qui, dans notre monde et tout autour de nous, n'ont ni pain, ni maison, ni justice, ni espoir. Pardonne-nous nos offenses et tout spécialement notre volonté insatiable de ne manquer de rien, alors que tant de sœurs et de frères manquent de tout. Nous te prions pour celles et ceux qui chancellent dans leur malheur. Nous te confions celles et ceux que la souffrance rend injustes. Celles et ceux qui meurent abandonnés de tous. Celles et ceux qui espèrent contre toute espérance. Celles et ceux qui attendent la parole ou le geste qui les rendra à la vie. Nous te confions celles et ceux qui comptent maintenant sur le secours de notre prière et que nous te nommons dans le profond de nos cœurs. Nous te prions aussi pour celles et ceux qui ignorent la pitié, qui se moquent de la faiblesse, qui restent prisonniers de leur désespoir. Nous te confions celles et ceux qui vivent enfermés, quel que soit le nom de leur prison. Nous te prions pour les peuples déracinés, opprimés, ceux qui sont meurtris par la guerre, et nous te confions les personnes qui vivent dans la peur d'être arrêtées. Nous te prions aussi pour l'Église universelle, pour qu'elle s'arrache à la fascination du pouvoir, pour qu'elle se rende libre pour le service des hommes, et qu'ainsi elle prépare la venue de ton royaume. Alors, nous serons des frères et des sœurs, non seulement en humanité, mais aussi dans la foi qui nous unit les uns aux autres. Et ensemble, nous œuvrerons avec toi pour que ton règne d'amour vienne sur la terre comme au ciel et que ta volonté d'amour soit faite dans le monde. Et nous rassemblons notre prière dans celle que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez encore l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun et chacune de vous, et ensemble qu'il nous garde dans son amour, qu'il nous bénisse et nous conduise à la vie éternelle. Amen.